Bienvenue sur le podcast Écrire pour soi, où on parle d'écriture et de motivation. Je m'appelle Camilla Morel et je suis autrice de romans imaginaires et libraire. Dans ce podcast, je souhaite vous appuyer dans l'écriture de votre roman, mais surtout vous aider à avoir confiance en votre écriture. Vous pouvez me retrouver sur Écrire pour soi chaque semaine pour faire le plein de motivation et d'assurance, mais aussi sur le Instagram Camilla Morel avec un zéro pour le haut. Le point d'honneur du podcast, trouver le plaisir dans sa passion, en se déculpabilisant. Et maintenant, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et que ça se passe bien pour vos projets. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de mon expérience de bêta lecture, on va dire. J'ai fait un épisode sur comment ça s'est passé, comment j'ai fonctionné, pourquoi je recommande l'alpha lecture de réécriture. Mais là, je vais vous faire un épisode sur mes conseils pour une bonne expérience de bêta lecture. Évidemment, ça ne va pas enlever toutes les chances d'avoir une mauvaise expérience, si on peut dire, mais je pense que ça peut augmenter vos chances que ça se passe bien. Alors, on va parler de comment trouver de bons bêta-lecteuristes, c'est quoi le nombre de bêta-lecteuristes que je recommande, comment préparer le terrain, et aussi je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées. Alors, on va entrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Pour faire un petit rappel et pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, j'ai fait un premier jet. Ensuite, j'ai fait une première réécriture et j'envoyais mes chapitres réécrits au fur et à mesure à mes bêta-lectrices dans un seul et même document Google Drive, donc Google Docs. Et je trouve que c'était une bonne méthode et je referai probablement ça. Et même que si je peux, je vais faire de l'alpha-lecture de premier jet. Si mon prochain premier jet est assez bon pour faire ça. Alors, comment trouver des bons bêta-lectrices? Premièrement, c'est quoi? Un ou une bonne bêta lectrice. En fait, je pense que c'est des gens qu'on connaît un minimum quand même. En tout cas, moi, je ne serais pas à l'aise d'envoyer mon manuscrit à un total inconnu, dans le sens que j'aurais peur pour le vol de manuscrit. Je sais que ça peut avoir l'air bizarre pour certains auteurs. Je sais que certaines personnes n'ont pas cette peur-là. Moi, oui, je serais juste pas à l'aise, en fait. D'envoyer ça à quelqu'un à qui j'ai jamais parlé en vocal, pour qui j'ai jamais entendu la voix, que j'ai jamais vue. Mais ça, évidemment, c'est moi. Donc, ça vous dérange pas, allez-y, il n'y a pas de problème. Aussi, je pense qu'il ne faut pas y aller seulement avec des amis proches, parce que parfois, on peut avoir peur de blesser nos amis proches et on ne dit pas les vraies choses. Ça se peut vraiment, en fait. C'est sûr que la vérité, c'est que ce serait plus bienveillant de dire tous nos retours négatifs ou positifs à nos amis, mais parfois, ça peut être vraiment difficile. Donc, je conseillerais de ne pas avoir que des amis proches dans votre cercle de bêta-lectrices. Il y a des amis qui n'ont pas de problème à tout dire, mais je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Personnellement, j'ai aussi accepté de travailler seulement avec des gens que je savais bienveillants. Pas dans le sens qu'ils allaient me flatter dans le sens du poil, mais dans le sens qu'ils n'allaient pas être mesquins dans leur retour, qu'ils n'allaient pas avoir des pensées un peu négatives, un peu mesquines envers moi parce qu'il y avait des défauts dans mon manuscrit. En fait, des gens de confiance, tout simplement. Et j'ai vu quelquefois le conseil de prendre des bêta-lectrices qui connaissent votre genre et d'autres qui ne le lisent pas forcément. J'avoue que moi, je comprends pas trop le principe de ce conseil. En fait, oui, je peux voir en quoi c'est utile parce que vous allez avoir un tout autre type de retour. Mais je pense que, par exemple, pour moi, pour la fantaisie et l'imaginaire en général, ça peut être vraiment difficile pour un lecteur qui en lit pas d'appréhender et surtout de faire des retours pertinents. Donc, moi, c'est pas un conseil que j'ai suivi. Mais sachez que c'est un conseil qui se donne et je pense qu'il y a des gens qui le suivent aussi. Maintenant, comment trouver les bêta-lectrices? Il y a plusieurs façons. Ça peut être difficile dépendamment de la grosseur de notre communauté, j'en conviens. Mais les techniques que je connais, ce serait soit d'aller sur des Discord, donc des serveurs où vous demandez à des gens « Est-ce que ça vous intéresserait de lire mon manuscrit? ça parle de telle chose, ta-ta-ti-ta-ta-ta. Et il y a souvent moyen de faire des annonces dans plusieurs serveurs différents. Sinon, vous pouvez faire une annonce sur votre compte Instagram, j'imagine aussi sur n'importe quel réseau social. Ça peut être autant en story que dans un vrai post Instagram. Il y a la possibilité, évidemment, de demander à vos proches, de demander à vos amis, demander à vos amis d'écriture sur Internet. Peut-être qu'il y a possibilité aussi sur des forums ou sur des groupes Facebook. Je vous avoue que ça, j'ai pas essayé, mais je suis presque certaine que ça se fait. Ensuite, pour ceux qui ont une grosse communauté et qui ont beaucoup, beaucoup de demandes quand ils font une demande de bêta lecture, sentez-vous pas obligé de dire oui à tout le monde parce que on va en parler juste après, mais il faut avoir un nombre quand même précis de bêta lectoristes. Selon moi, il ne faut pas en avoir trop, sinon c'est difficile de prendre les retours. Et surtout, le fait d'avoir plusieurs propositions, ça va vous permettre un peu de filtrer, en fait. Donc, vous allez pouvoir choisir des gens en qui vous avez confiance, des gens qui ont l'air emballés aussi. Parce que des fois, par expérience, on a des propositions très différentes les unes des autres. Donc, on pourrait avoir une proposition de quelqu'un qui a vraiment envie de travailler sur notre manuscrit, qui a l'air vraiment emballé, tout comme on pourrait avoir la proposition de quelqu'un qui n'est pas trop sûr d'avoir le temps. Alors, dans ce cas-là, je choisirais évidemment la personne qui a l'air plus sûre d'elle, qui semble vraiment enthousiaste à l'idée de travailler sur mon manuscrit avec moi. Je pense que c'est normal aussi de faire une sélection et la meilleure sélection possible. Je donne d'autres exemples, mais si vous savez qu'une personne qui s'est proposée a des retours très tranchants et que vous avez du mal à prendre la critique, c'est à vous de voir si vous allez être capable de relativiser les retours, de ne pas être trop down suite à la réception des retours. À vous de voir si vous êtes capable de les encaisser, en fait. Mais évidemment, il y a des personnes qu'on ne connaît pas et ça se peut aussi qu'on reçoive des demandes seulement de personnes inconnues. À ce moment-là, je pense que c'est à vous de tenter un peu le terrain pour voir si ces personnes-là sont vraiment, veulent vraiment participer à rendre votre texte meilleur. Alors voilà, faites bien attention en fait à votre choix, c'est tout ce que j'essaie de dire. Ensuite, le nombre de bêta-lectrices à choisir, moi j'irais vraiment entre 5 et 6. Si on va plus loin, il y a des risques de contradiction. Je l'ai très bien vu pour mes 4 premiers chapitres que j'avais envoyés à 11 personnes. Il y avait des gens qui se contredisaient. Donc, c'était vraiment compliqué, en fait, de savoir qui avait peut-être plus raison. Est-ce que c'était seulement des avis subjectifs? Est-ce qu'il fallait que j'écoute l'un des deux ou est-ce qu'il fallait que j'intègre les deux en même temps? C'était vraiment difficile, en fait, d'avoir autant de bêta-lectrices. Alors moi, je vous conseille pas plus de 6. Surtout que c'est très long de prendre les commentaires de bêta-lecture en compte. Donc si vous en avez énormément, ça va vous prendre une éternité. Le risque, par contre, avec moins que 5 à 6, c'est que vous n'aurez pas un gros range de subjectivités différentes. Comme je vous disais, c'est un peu compliqué d'avoir des opinions qui se contredisent, mais c'est aussi normal. Et c'est ce qui vous permet de déterminer à la longue qu'est-ce qui pourrait le mieux fonctionner pour votre roman. C'est ce qui vous permet de voir plusieurs horizons, plusieurs opinions différentes. Et je trouve ça quand même important. Deuxième point aussi, c'est qu'il y a toujours le risque que quelqu'un vous lâche. Moi, j'en ai pas parlé dans l'épisode passé, là, le premier épisode sur la bêta lecture. Mais à la base, j'avais 5 bêta lectrices et il y en a une qui a lâché parce qu'elle n'avait pas le temps. Voilà, donc au final, j'étais bien contente d'en avoir 5, parce que comme ça, j'ai fini avec 4 plutôt que 3. Alors si on va avec 6, c'est possible aussi qu'on se ramasse avec 5. Alors c'est quand même intéressant, je pense, d'en avoir quand même un bon nombre, au cas où. Ensuite, comment on prépare le terrain avec les bêta-lectrices? Moi, je pense qu'il faut être vraiment très clair sur ce qu'on veut. Il faut, au choix, dire notre but avec notre manuscrit. C'est quelque chose que j'ai pas fait, que mes bêta-lectrices ont compris par elles-mêmes, donc ça c'est bien. Mais je pense que, par exemple, si vous faites 2 documents ou plus, vous pouvez peut-être dire à certaines bêta-lectrices c'est quoi votre intention littéraire pour qu'elles puissent vraiment faire des commentaires sur ce point-là. Et pour l'autre groupe de bêta-lectrices, ne pas le dire pour voir si c'est clair et si vous avez réussi votre travail d'autrice de donner cette intention littéraire-là dans votre roman. Ça, c'est vraiment au choix, là. Ça, c'est comme une idée que je vous donne de faire deux groupes, mais vous faites évidemment ce que vous voulez. Je pense que les deux ont leurs avantages. Je pense que ça peut être bien aussi de parler avec vos bêta-lectoristes de si vous prenez bien la critique ou non, comme ça ils vont pouvoir un peu plus prendre le pouls vis-à-vis de vous et voir est-ce qu'il y aurait besoin d'y aller franco ou un peu moins, est-ce qu'ils devraient faire plus attention aux mots qu'ils utilisent. Et comme ça, personne ne va être heurté. C'est un peu difficile, en fait, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment juste francs, très directs, et pour qui ça va être impossible, en fait, de vraiment mâcher leurs mots, de prendre le temps de dire « c'est mon avis, nanana ». Mais si vous en parlez dès le début, comme ça vous permet de voir si la personne est faite pour travailler avec vous ou non, en fait. Peut-être que si vous lui dites ça, elle va se dire « Ah ben non, c'est pas pour moi, moi j'ai vraiment pas envie de passer 10 ans à faire des disclaimers à chaque message. » Et ben c'est correct. Peut-être que c'est mieux comme ça, peut-être que c'est mieux qu'il n'y ait pas de collaboration dans ce cas-là si il y a des chances que l'une des deux personnes soit heurtée. Bon, là je prends des pincettes parce que je pense que tout le monde a une vision différente de la chose là-dessus. Parfois aussi c'est mieux de savoir se confronter à des manières de travailler différentes, à des avis différents, des façons de parler différentes. Mais si c'est votre première expérience de bêta-lecture, essayez d'y aller un peu plus doucement, de prendre le plus de précautions possible parce qu'on ne sait jamais, une mauvaise expérience peut arriver et ça peut un peu nous dégoûter la bêta-lecture. Là, je me sens un peu mal là, de vous faire peur comme ça. J'espère que je ne vous fais pas peur parce que sachez que moi, ça s'est très bien passé. Ensuite, je pense qu'il faut être clair sur nos conditions. Donc, faut absolument, selon moi, donner le nombre de mots de notre manuscrit, surtout si on écrit un gros manuscrit. Donc, moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit de pas dire le nombre de mots, en fait, parce que j'en ai 180 000. Donc, ça prend beaucoup de temps à lire et surtout à bêta-lire. Donc, il faut absolument que je le dise. Sinon, ben, y a des gros risques que la personne soit découragée en apprenant ça et ben qu'elle abandonne en cours de route parce que c'était un trop gros projet pour son temps, pour son emploi du temps et tout. Donc ça, très important selon moi de le dire. Faut aussi donner un délai. Je sais que des fois, on n'a pas de délai, mais si vous ne donnez pas de délai, le danger, c'est que la personne s'étire pendant 2 ans sur votre bêta-lecture. Donc moi, je vous recommande d'en donner un quand même. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Peut-être que la personne va dépasser et ce ne sera pas trop grave, mais au moins, ça ne va pas dépasser de plusieurs mois. Quitte à donner un objectif un peu plus serré que la réalité, comme ça, vous allez arriver dans les temps, au final. Aussi, important de parler de nos objectifs. Moi, j'avais une situation particulière par rapport aux maisons d'édition et tout, donc je l'ai mentionné à mes bêta-lectrices pour qu'elles comprennent pourquoi j'étais un peu pressée. C'est mieux qu'elles sachent, parce que comme ça, vous n'avez pas l'air de mettre de la pression pour rien, en fait. Aussi, c'est important de mentionner comment on veut travailler, je pense. J'aurais pas voulu, personnellement, je l'ai abordé dans le précédent épisode, faire 5 documents pour 5 bêta-lectrices. Pour moi, ça aurait été infernal. J'avais fait 11 documents pour les 11 bêta-lectrices des 4 premiers chapitres. J'avais trouvé ça très très long, très chronophage de prendre les retours en compte. J'aime mieux qu'ils soient tous au même endroit. Comme ça, j'ai juste un document à regarder, à vérifier, et je suis certaine de ne pas manquer de commentaires. Comme j'ai dit dans le précédent épisode, oui, ça a ses mauvais côtés, dans le sens que les bêta-lectrices vont peut-être s'influencer dans les retours, mais en même temps, ça nous permet de prendre le pouls et de voir si tout le monde est d'accord ou s'il y a des désaccords justement sur certains points. Et moi, je faisais confiance à mes bêta-lectrices aussi pour avoir leur propre subjectivité. Ça, c'est à vous de décider ce que vous faites, mais dites-le ce que vous faites quand vous faites votre appel de bêta-lectrice parce que comme ça, tout le monde est averti. Et si la personne ne veut pas travailler avec d'autres gens sur le même document, ben elle ne vous fera pas de proposition. Et à contrario, si elle veut juste travailler avec d'autres personnes sur le même document, ben elle vous fera une proposition. Donc oui, les bêtas nous rendent un énorme service et ne sont pas obligés. Mais nous non plus, on n'est pas obligés d'accepter certaines conditions. Et en parlant de vos conditions dès le début, vous évitez à vos BL et à vous un inconfort. Alors, je vous répète tout ce qui est selon moi à mettre sur l'annonce de bêta-lecture quand vous demandez des bêta-lecteurs. Le nombre de mots de votre manuscrit ou le nombre de mots estimés si vous n'êtes pas certain, vos délais, votre objectif et votre méthode de travail. En quatrième, moi je vous conseille de ne pas forcément répondre à tous les commentaires, surtout si vos BL en mettent beaucoup. C'est chronophage et le fait de passer du temps là-dessus peut être vraiment éreintant et parfois même plus difficile à encaisser. Moi, j'ai pas répondu à énormément de commentaires. J'ai par contre souvent écrit des messages à mes bêta-lectrices pour les remercier parce que je voulais qu'elles sachent que je prenais pas leurs commentaires à la légère. Parfois, quand on est bêta-lecteur et qu'on lit le texte de quelqu'un et qu'on ne reçoit aucune réponse, ça peut être vraiment démotivant. On a un peu l'impression de travailler dans le vide. Donc, c'est important de rappeler à vos bêta-lectrices que vous êtes là, que vous écoutez leurs recommandations. Mais répondre à tout, effectivement, ça peut être vraiment, vraiment fatigant. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin de faire ça. J'ai une bêta-lectrice qui me mettait parfois 40 commentaires par chapitre. Alors, si j'avais répondu à chacun de ces commentaires pour 66 chapitres, je serais encore en train d'y répondre. Donc, ça, c'est mon petit conseil. Ensuite, ce serait d'accepter la critique. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai fait un épisode à ce sujet. Si ça vous tente d'aller regarder, je donne des petites astuces pour apprendre à accepter la critique si c'est quelque chose avec quoi on a du mal. Mais si vous contredisez sans cesse vos bêta-lectrices et que vous passez votre temps à vous justifier sur vos choix, il y a des risques que ça les décourage parce qu'ils ne veulent pas vous faire des commentaires juste pour que vous les réfutiez en fait. C'est comme une perte de temps pour eux si vous acceptez aucun de leurs retours et honnêtement, ça arrive jamais qu'il n'y a aucun retour bêta-lectrice qui est pertinent. Je pense vraiment que souvent, la plupart de leurs commentaires ont une raison d'être. Évidemment, on ne prend pas tout en compte parce que parfois, c'est pas adapté à notre roman ou ils n'ont pas encore tout compris ce qu'on voulait faire et ils vont s'en rendre compte plus tard. Mais vraiment, il ne faut pas tout réfuter. C'est vraiment décourageant pour les personnes qui mettent du temps sur votre texte. Et il y a même un risque qu'ils abandonnent, ce que je peux comprendre honnêtement. Ensuite, je recommande aussi de préparer un document de questions pour vos bêta-lectrices à donner à la fin ou au début. Donc si vous le donnez au début, ça va permettre à vos bêta-lectrices d'avoir certains points de vigilance qu'ils vont garder en tête tout au long de la lecture. Mais si vous le donnez à la fin, ils vont tout simplement comme se remémorer le roman et répondre selon leurs premières impressions. Alors, on m'a demandé quelles questions je mettais dans ce questionnaire. Alors, je vais vous les révéler maintenant. J'ai demandé quelle est ton impression d'Oriane après avoir lu ce premier tome et quelle est ton impression d'Ezra aussi, donc pour mes deux personnages principaux. J'ai demandé qu'as-tu pensé des personnages secondaires. Et j'ai aussi mis comme un petit peu de viande sur l'os dans ma question, dans le sens que j'ai parlé de certains personnages en particulier, de choses que je voulais faire pour la réécriture 2. Je vais pas vous le révéler étant donné que je vais pas vous spoiler, mais voilà, j'ai demandé c'était quoi leur avis, leur piste de réflexion. Ensuite, j'ai demandé est-ce que le rythme t'a paru équilibré? Est-ce que t'as eu l'impression qu'il y avait des temps morts, des moments où ça stagnait? Ou au contraire, est-ce que tu avais l'impression que l'action allait trop vite? J'ai aussi demandé est-ce qu'il t'est arrivé de trouver une scène inutile ou de trop? Et j'ai mis le plan de chapitre entier de mon roman à la disposition de toutes mes bêta-lectrices pour qu'elles puissent le survoler si jamais ça leur tentait, pour me faire part de scènes qui leur paraissaient superflues. J'ai demandé s'il y avait des scènes qu'elles n'avaient pas aimées. J'ai demandé est-ce qu'il y avait trop de descriptions ou pas assez? J'ai demandé est-ce qu'il y avait des problèmes avec les dialogues? Est-ce que le ton général t'a rebuté? Globalement, est-ce que tu as apprécié ta lecture? Quelles sont tes attentes pour la suite? Est-ce que la fin t'a plu? Est-ce que tu trouvais que ça bouclait bien la boucle? Est-ce que tu te fichais complètement d'arrêter de lire en plein milieu ou est-ce qu'elle t'a happé? J'ai demandé aussi est-ce que tu as des derniers commentaires à ajouter? Donc là, je leur laissais vraiment l'espace pour noter tout ce qu'elles avaient à dire. Et j'ai aussi posé des questions sur l'évolution de mes deux personnages principaux. Ensuite, j'avais des questions spécifiques sur mon roman, mais ça, je ne vais pas vous les donner étant donné que ça pourrait vous spoiler. Si vous avez vraiment un doute sur une péripétie en particulier ou un élément, peu importe lequel, dans votre roman, n'hésitez pas à en parler dans ce questionnaire-là. Vous allez pouvoir avoir l'opinion générale et ça va vous aiguiller un peu plus. Ensuite, je sais que ça va peut-être être impopulaire comme opinion, mais si le courant passe pas avec un ou une BL, je pense qu'il vaut mieux en parler. Vraiment, pas confronter la personne de façon désagréable, évidemment, mais vous pouvez peut-être parler avec la personne de ce que vous aimez pas, lui demander c'est quoi qu'elle en pense. Vraiment, essayez d'ouvrir le dialogue. Ou si ça marche vraiment pas, vous pouvez tout simplement laisser la personne partir en lui disant que vous aimeriez mieux arrêter la collaboration. Je pense qu'il y a pas de problème à faire ça. C'est mieux de faire ça et que la personne arrête de travailler sur votre roman, plutôt que de la laisser vous mettre plein de commentaires sans les regarder parce que vous n'avez pas envie de travailler avec elle. Parce que là, sinon, elle va perdre son temps et c'est vraiment dommage pour elle. Autre truc que j'ai oublié d'aborder, quand vous faites l'appel à Bêta Lectoris, n'oubliez pas de mettre les trigger warnings. Donc, tout ce qui pourrait être choquant pour les lecteurs, notez-le. S'il y a de la violence, ce genre de choses-là. Parce que ça pourrait vraiment faire du mal à la personne si jamais elle a eu des mauvaises expériences, si vraiment ça la trigger. Donc, faites bien attention à ça. On m'a demandé que faire si un bêta lecteur au cours de sa lecture est choqué par ce qu'on écrit malgré l'avertissement trigger warning. Je pense qu'il faut surtout en parler avec il ou elle. Il faut lui demander si elle se sent à l'aise de continuer sa lecture et sinon le laisser partir. On va pas forcer quelqu'un à lire quelque chose qui le choque, tout simplement. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre que s'excuser et laisser la personne partir si elle a pas envie de continuer sa lecture. Combien de fois faire une bêta lecture après une première réécriture quand on est autrice en herbe? Je dirais une. Je pense que si vous prenez 5 à 6 bêta lectrices, vous aurez pas besoin d'en refaire d'autres. Mais c'est dur à dire, ça dépend évidemment de votre niveau. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser prendre dans le piège de réécrire son roman 6, 7, 8 fois avant un premier envoi. Dans le sens que si vous voulez absolument que votre roman soit parfait, ben il ne sera jamais envoyé et vous ne pourrez jamais avancer. Et comme je vous ai dit, si vous redemandez une deuxième fois 5, 6 bêta-lectrices, vous avez vraiment des risques de vous perdre dans les retours. En fait, quand on a trop de retours, on a vraiment du mal à voir qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ou non. C'est vraiment plus difficile de relativiser chacun des retours et on se perd un peu là-dedans, on commence un peu à patauger. Je l'ai vraiment expérimenté pour seulement 4 chapitres, donc j'imagine pas pour tout le roman. Ensuite, je voulais mentionner, parce que c'est comme des questions que j'ai reçues, la correction normalement n'est pas notée par un bêta lecteur, surtout pas gratuitement. La correction et la bêta lecture, c'est deux choses différentes. Alors correction, on va plus porter notre jugement sur les fautes, l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, ce genre de choses-là, vraiment la forme du texte. Mais normalement, c'est pas ça qu'un bêta lecteur va faire. Un bêta lecteur va plus se concentrer sur le fond, sur toutes les questions là, que je vous ai notées. Le rythme, les personnages, les relations entre les personnages, l'histoire en elle-même, les rebondissements, les péripéties, ses ressentis par rapport à la lecture, ce genre de choses. Moi, j'ai été très chanceuse, il y a une de mes bêta-lectrices qui a beaucoup commenté la forme en plus du fond, dans le sens qu'elle m'a noté quand des phrases étaient inutiles, quand je me répétais au niveau des idées et tout, et ça m'a vraiment, vraiment aidée à réduire la taille de mon manuscrit. Mais en général, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, je pense. Aussi, on m'a demandé comment ça se passe et la bêta doit-elle avoir des facultés particulières. Ça dépend de vous, en fait. Si vous voulez vraiment une bêta lecture professionnelle, vous risquez probablement de devoir débourser parce que ça se fait de payer pour des bêta lectrices professionnelles. Mais je pense que c'est pas nécessaire. Dans votre annonce, vous pouvez peut-être spécifier ce que vous voulez vraiment comme retour. Donc, par exemple, moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui est très porté sur les relations entre personnages, et là peut-être que quelqu'un va se proposer qui a vraiment une capacité plus accrue à analyser ce genre de choses-là. Mais c'est dur à dire en fait pour les facultés particulières, et c'est pas parce qu'on cherche quelqu'un qui a un genre de faculté qu'on va finir par trouver, évidemment. Mais je pense que ma réponse ce serait que c'est à vous de voir c'est quoi les facultés que vous voulez chez votre bêta lectrice, bêta lecteur. Moi, je pense qu'il faut avant tout que ce soit des personnes bienveillantes qui ont, qui lisent beaucoup, en fait. Je trouve ça important quand même que ce soit quelqu'un qui lit beaucoup, ou en tout cas qui lit un minimum, parce que ça permet d'avoir l'avis vraiment d'un lecteur. On m'a aussi demandé, est-ce que la bêta-lecture se fait avant ou après la réécriture? C'est à votre discrétion, vous la faites quand vous voulez. Ça peut être après le premier jet, après une première réécriture, après une deuxième réécriture. Après ça, je pense que vaut mieux ne pas attendre la troisième réécriture parce qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire sans bêta-lectoris avec notre seul œil créatif. En fait, je pense que même après une réécriture, on a du mal à voir ce qu'on peut améliorer, ce qui ne fonctionne pas dans notre texte, et vous risquez de faire des changements que vous devrez changer plus tard en fonction des retours de bêta-lecture. Donc moi, je conseillerais de ne pas attendre 2 ou 3 réécritures. Mais ça, évidemment, c'est moi. Donc vous êtes la personne la mieux placée pour décider quand est-ce que vous voulez envoyer. Et voilà, je pense bien que c'est tout. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je voulais, par contre, ajouter... C'est sûr que ça fait peur, la bêta-lecture, parce que il peut avoir des mauvaises expériences, dans le sens qu'on peut se retrouver avec quelqu'un qui est trop tranchant pour nous, qui nous fait un peu de peine dans ses retours. On peut avoir des gens qui abandonnent la bêta-lecture en cours de route, et ça peut nous faire un peu de peine, dans le sens que on pourrait se mettre à se dire, bon, est-ce que mon roman est pas bon? Est-ce que la personne a abandonné parce qu'elle s'ennuyait en lisant? Mais rappelez-vous que tout le monde a sa vie. Donc souvent, les gens qui abandonnent, c'est pas parce qu'ils trouvent votre roman pas bon. C'est vraiment parce qu'ils ont une vie à côté et qu'ils ont beaucoup d'obligations et qu'elles ont peut-être mal anticipé le temps qu'une tâche leur prendrait. C'est vraiment difficile, je trouve, de pas prendre tout personnel. Et on peut se mettre à avoir plein de pensées parasites, à avoir plein de doutes. Tu sais, par exemple, moi, ça m'est arrivé de me dire, je me demande vraiment s'ils aiment mon roman pour vrai, parce que je vois plein de bêta-lecteuristes parler de leur lecture en story. Et est-ce que si mes bêta-lecteurs le font pas, ça veut dire qu'ils aiment pas mon roman? Tu sais, on peut vraiment s'en mettre plein la tête, des doutes complètement infondés. Mais quand ça vous arrive, essayez vraiment de relativiser, parce que, en fait, c'est pas très probable que ce soit ce que vous pensez au final. Et vous vous emballez probablement un peu trop. Essayez d'être positif avec votre roman, parce que souvent, c'est plus positif que vous pensez. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que j'ai pas trop parlé. Et j'espère que vous saurez trouver une façon de fonctionner avec la bêta-lecture qui va fonctionner pour vous. C'est le plus important. Alors, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vos projets se porteront bien et que vous aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou à me contacter sur Instagram pour en discuter. Je poste là-bas très régulièrement et vous pourrez y retrouver du contenu sur l'écriture, la productivité, la lecture et la motivation. Nous nous retrouverons pour un nouvel épisode très bientôt. Jusque-là, j'espère que vous prendrez du plaisir à écrire pour vous.